sociologie. J'ai été auparavant jusqu'en 2011 enseignante dans cette même école. Donc j'ai le plaisir de retrouver l'amphi à peu près inchangé et quelques chers collègues, ainsi que d'anciens étudiants. Donc ce qui est quand même un rempli de joie. Je remercie les organisateurs, donc Jérôme Boissonnade, le réseau, et puis pour cette journée, Anne de Radio, Dominique Teil, Lionel Rouget, Bernard Barouche, que j'ai le plaisir de trouver. Donc je vais essayer, cette présentation va être totalement chaotique parce qu'en fait, j'avoue que je n'ai pas eu énormément de temps pour la préparer. En revanche, ça fait partie de choses auxquelles je réfléchis depuis un certain temps. Avoir un temps certain. Et cette réflexion donc, aujourd'hui va être la convergence de pas mal de travaux et de travaux personnels, mais aussi de lecture dans des horizons, disons, géographiques variés. Et je vais peut-être poser plus de questions qu'apporter des réponses d'ailleurs. Sachant que je ne vais pas nécessairement répondre de façon complètement directe à l'injonction de mes collègues. Qui est de se situer autour de l'action de la transition, mais bon, je pense qu'une certaine façon, tout ce que je raconte peut aussi être transféré autour des questions de transition, notamment en matière de production de l'habitat, ou de transformation, de réhabilitation de l'habitat, etc. Donc on va voir ça. Pour commencer, je n'ai pas vraiment besoin de la première diapo, donc je vais me resituer cette présentation autour de... du point de vue de recherche qui m'a formée ou qui m'a fait venir ici ce matin, qui est au départ des recherches sur les pays, disons, dits du Sud. C'est progressivement que je suis arrivée au nord de mon pays natal, qui est la France, et je continue à essayer d'avoir un pied ici et là, ce qui n'est pas toujours évident. Mais, disons, mes travaux d'origine, en fait, ont lieu essentiellement en Égypte, un petit peu au Liban, et puis des incursions assez brèves en Inde, notamment. Mais le point de vue dont je pars, c'est celui d'une espèce de conviction, d'un étonnement devant la capacité de certaines sociétés du Sud de produire de façon massive de l'habitat, voire de la ville, sans aucun soutien d'une autorité quelconque, qu'elle soit étatique, para-étatique, municipale, professionnelle. Donc cet étonnement-là, en fait, il est permanent, parce que, évidemment, ça produit, à l'époque où j'ai commencé à travailler, c'était dans les années 90, fin des années 90, c'était déjà très surprenant, mais aujourd'hui, disons, l'impact de cette production qu'on peut appeler maintenant d'autopromotion du logement et d'autopromotion de la ville, puisqu'il ne s'agit pas tellement d'autoconstruction, j'y reviendrai, est absolument massif, puisqu'on pense que dans les années à venir, on va atteindre 40% de la population mondiale qui vivra dans ces quartiers d'autopromotion que les institutions internationales appellent des slums, mais que je refuse d'appeler comme tel, sauf si c'est du langage vernaculaire, notamment en Inde. Bon, voilà. On va parler de quartiers précaires ou de quartiers d'autoproduction, sans revenir sur les défis liés à la question foncière, etc. C'est vraiment le sujet là, tout de suite. Voilà. Alors, donc, ce que je voulais souligner dans cette introduction, c'est que, finalement, la production de participation, voire la coproduction dans les quartiers précaires vus du Sud, elle est dans sa forme nue, celle de l'implication nécessaire, absolue, à la production quotidienne de l'habitat, des services, de formes de solidarité diverses. Donc voilà, c'est une nécessité, elle relève de l'absolue nécessité pour les familles, pour les ménages, mais aussi à l'échelle individuelle, à l'échelle inter-individuelle, voire à l'échelle communautaire, quand cette échelle-là signifie quelque chose. Et je pense que, quelles que soient les sociétés, quels que soient les types de quartiers qu'on étudierait ou qu'on prendrait en considération en Amérique latine ou au Moyen-Orient ou en Asie, on trouverait de toute façon ces formes d'implication dans la production matérielle et dans la production immatérielle de la ville. Elle est beaucoup plus forte. Donc, évidemment, cette présence-là de l'implication dans la production de la ville, elle interroge et puis évidemment, elle suscite un certain nombre de enfin, évidemment, j'imagine que si on vous a demandé de venir ici avec Éric Denis ce matin, c'est pour réfléchir à l'inspiration, aux formes d'inspiration que ces types d'implications suscitent ou peuvent susciter aujourd'hui ici en Europe. Alors d'abord, il faut réfléchir à ce que ça signifie, cette nécessité impérieuse de l'implication dans la fabrication de la ville ou de la participation ordinaire. C'est que d'abord, ça relève du fait qu'on parle de sociétés qui ne sont pas protégées ou qui ont perdu un certain nombre de protections, intégrées vraiment au sens de Castel. Et que ces protections se défont dans les grandes métropoles, dans les sociétés post-industrielles, mais elles ne se refont pas ou pas nécessairement à travers la forme de nouveaux contrats sociaux, une nouvelle forme de protection que l'État pourrait, que l'État ou que les collectivités territoriales pourraient générer. De cette façon-là, on est effectivement, il faut quand même se rappeler qu'on parle de sociétés qui sont massivement non salariales. Donc le point de départ, c'est quand même ça, c'est-à-dire dans lesquelles on a jusqu'à 80% de la population qui n'a pas de revenus fixes, qui n'a pas de couverture sociale, qui n'a pas d'allocation chômage et qui a encore moins d'aide au logement. Donc, la question de 5 euros d'APL, bon, voilà, c'est très très loin de ça. Voilà, donc ça existe cette implication dans ces formes nues ou quasi évidentes. Alors il faut évidemment questionner après les dividendes et les dépasser, mais elle est quand même là de premier abord, elle existe à tous les niveaux, donc qu'il s'agisse de la construction, alors j'ai dit autoconstruction et autopromotion, pour signifier que l'autoconstruction c'est la forme qu'on a le plus, donc c'est la forme qu'on a le plus souvent tendance à retenir ici à propos de ces quartiers, mais en réalité l'autoconstruction est en train de disparaître. Si elle a jamais complètement existé sous une forme littérale, elle est en train de disparaître sous les coups de boutoir de la division du travail croissante dans tous les pays du Sud, en particulier les plus urbanisés et les plus intégrés à la production du monde capitaliste. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'autopromotion ou voire d'autopromotion assistée généralisée, qu'il s'agisse de produire des habitations de bas étage, de faible hauteur, ou des habitations comme dans le cas de l'Égypte. Je vous montrerai après cette photo d'ailleurs. Excuse-moi, je peux passer la photo d'après. Voilà. Ou comme cette photo prise dans un quartier d'invasion, de squat, quartier sur lequel j'ai travaillé pendant plus d'un quart de siècle, et qui a commencé tout petit et qui a progressivement grandi jusqu'à ce qu'on ait des immeubles de 6-7 étages, voire de 10 étages. Et on est dans un des quartiers les plus pauvres du Caire, là en l'occurrence, un des moins sécurisés du point de vue foncier. Donc on peut imaginer que dans d'autres quartiers dits informels, enfin de production précaire, qui sont sur des terrains privatifs, donc plus sécures, d'un point de vue foncier, on a là des immeubles de 12-15 étages qui s'édifient par des petits promoteurs privés. Donc on a toutes sortes de formes de production qui vont de la, bon, enfin, presque plus de l'autoconstruction, mais de l'autopromotion faite par le ménage, avec des maçons ou avec des entrepreneurs, à des formes de petites promotions privées, à des formes carrément de promotion immobilière privée qui quelquefois s'entrecroisent avec ce qui se produit dans le secteur plutôt formel, si ça existe, on se demande. Mais tu peux peut-être revenir en arrière, parce que j'ai montré... en arrière. Voilà. J'ai montré ces deux plans. Donc le premier date de 1952 et le second de 2016. C'est le résultat d'un travail de cartographie qu'on est en train de finaliser, d'une étude avec des collègues égyptiens du bureau d'études Taqwin, dans lequel on voit que donc, ce quartier d'invasion dont je parle, Eric, on va peut-être d'entendre parler toujours du même quartier, mais maintenant c'est quand même 700 000 habitants, hein, donc ce petit quartier-là en question, donc, qui est situé là. Au milieu, on a le périphérique. Donc ce quartier d'invasion, on voit très bien la forme, puisque ce sont d'énormes îlots dans lesquels il est impossible, sur lesquels il n'y a pas de cartographie plus précise. Ça, c'est à partir des relevés que j'avais fait moi-même pour ma thèse, Donc en 1994, vous voyez qu'on n'est pas, voilà, on n'a pas beaucoup avancé sur ce plan-là. Et là, vous avez par contre des formes de production urbaine totalement différentes, puisque c'est sur des terrains privatifs, et là on voit que c'est très linéaire, très régulier, très orthogonal même. Mais par contre, dans tous les cas, il s'agit de production populaire de l'habitat, de production et de production de quartiers précaires, puisqu'ils ne sont pas reconnus ni les uns ni les autres, même si ceux-là, étant bâtis sur des terrains privatifs, sont sécures, jouissent d'une certaine sécurité de la tenue, alors que ceux-ci ne sont garantis de rien. Bon, voilà, donc on a, donc je vous parle de ce quartier qui représente, bon voilà, aucune donnée précise pour quantifier la population. On parle de 350 000 habitants ou de 700 000, voilà, au choix. Et on est en plein cœur, hein, je précise quand même qu'on est dans la métropole, au cœur de la métropole, et ces quartiers-là, Dar es Salaam, qui est un gros quartier sur terre agricole, près du Nil, donc très fertile, etc., enfin anciennement très fertile, qui a aussi plusieurs centaines de milliers d'habitants aujourd'hui. Donc on parle ne serait-ce que de voilà, de, le sud du Caire, cette partie-là, c'est déjà peut-être autour d'un million d'habitants, voire plus, avec très, très extrêmement peu de services. Pour tout ce quartier-là, on a une seule école. Voilà, une seule école publique. Autant dire que tous les services dont les citadins ont besoin sont fournis par le secteur privé, lucratif ou non lucratif. Pour revenir à cette introduction déjà un petit peu longue, cette implication par nécessité, donc elle existe à tous les niveaux, elle existe aussi au niveau de la, elle génère aussi des activités économiques qui sont également peu reconnues ou très rarement prises en compte par les gouvernements locaux, avec une part du secteur informel qui est prédominant malgré le recouvrement avec le secteur formel. Cette implication, elle peut être quotidienne, donc elle peut être routinière, mais elle peut être également inventive et également faite de conflits, d'affrontements avec les pouvoirs publics, le cas échéant. Les travaux sur la participation à partir des pays du Sud sont très anciens, largement méconnus en Europe, peut-être davantage en Amérique du Nord, en raison des contacts avec l'Amérique latine, qui a été vraiment le continent pionnier dans l'écriture et dans la réflexion sur ces questions. Et par exemple, je me réfère quand même beaucoup aux travaux de Ray et Mangin dans 1967-1969, qui montraient déjà qu'il avait fait une idée très précise sur ces quartiers précaires en Amérique latine, et qui montraient que l'intensité de la participation dans ces quartiers dépendait de leur phase de formation, de leur étape de formation, et que l'intensité de la participation était très élevée dans une phase qui était juste postérieure à leur formation, ou quand le quartier était menacé par une crise significative. Inversement, quand le quartier arrivait à des formes de consolidation, il était davantage, les formes de participation mutuelle ou d'implication collective des habitants étaient beaucoup plus faibles, et on assistait à des formes d'individualisation beaucoup plus nettes. Les quartiers dont Ray Mangin, voire Turner, voire de nombreux les auteurs latino-américains et quelques auteurs indiens aussi nous parlent dans les années 60, sont des quartiers faits en autoconstruction pour la plupart et en autoconstruction communautaire, ce qui a quasiment disparu aujourd'hui. C'est également, il faut le dire, des quartiers qui sont de petite taille, qui se situent dans des villes qui sont toutes en dessous du million d'habitants, alors qu'on est aujourd'hui dans une explosion urbaine absolument considérable, qui fait que ces quartiers sont devenus parfois des méga-quartiers, voire ce qu'on appelle des méga-slums, pour les que Véronique Dupont et Frédéric Landy, etc., et qu'on se rappelle des méga-slums, dans des méga-villes, et donc l'ensemble des questions foncières, on peut absolument plus raisonner de la même façon sur ces quartiers aujourd'hui que dans les années 60. Toujours est-il qu'on a un substrat de littérature vraiment intéressant qui nous permet, qui n'a pas été vraiment prolongé d'ailleurs, et qui nous permettrait peut-être de faire des ponts conceptuels sur ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, et notamment sur l'existence ou la perdurance de ce fameux ethos de coopération mutuelle que ces auteurs décrivent pour ces quartiers, où la plupart des ménages participaient aux rassemblements communautaires et aux travaux publics, voilà, avant que cette collaboration active ne décline. C'est aussi décrit d'ailleurs dans les travaux de Vandana Desai pour l'Inde. Voilà. Alors, il faut faire le lien avec ce que disait Dominique juste en introduction. On voit bien que là, on parle de participation, d'implication et de participation communautaire, soit organisée et parfois ponctuelle, d'ailleurs pas toujours organisée continue. Elle est parfois accompagnée, mais elle n'était et elle n'est en aucun cas descendante. Hein. Elle n'est pas suscitée par les pouvoirs publics, elle n'est pas organisée par les pouvoirs publics, elle n'est pas écrite dans des textes de loi ou comme ça peut être le cas ici. Alors, on va voir progressivement que ces formes d'implication ou de participation communautaire, elles ont été requises, elles ont été progressivement incorporées dans certains pays et dans certaines situations par les institutions internationales et par les États, voire certaines collectivités locales, pour faire de la réhabilitation participative ou pour faire du slum upgrading, la restructuration de quartiers précaires qui prend de différentes formes, mais également pour faire de la reconstruction assistée, quoique on en fasse moins aujourd'hui d'ailleurs que dans les années 70 pour des raisons d'absence de disponibilité foncière tout simplement. Mais ça, je pourrais peut-être y revenir, peut-être que c'est partie des questions dont on pourra parler. Alors, je ne sais pas si tu veux pas passer la prochaine diapo. Donc, je voulais juste donner quelques illustrations parce que je crois qu'on n'a pas le temps d'être. J'ai pas le temps d'être très longue et j'ai déjà dit pratiquement tout dans l'introduction. Est-ce que tu peux encore aller en arrière ? Non. Voilà. On en est là. Alors. Dans ces différentes manifestations, la participation, disons, ordinaire, ou ces formes d'implication qui sont finalement l'élément zéro de la participation, elles prennent des formes aussi communautaires qui ont été reconnues, qui ont été documentées dans un certain nombre de travaux, probablement pas assez connus d'ailleurs, à mon sens. Pour le Brésil, on a, excusez pour la prononciation, le multirao, qui est une forme de, qui est définie ici comme la mobilisation de citoyens collective et gratuite pour réaliser un service qui bénéficie à la communauté. Le multirao, en fait, a été beaucoup utilisé pour la construction d'habitats communautaires, enfin d'habitats notamment dans certaines favelas, mais également dans des villages, etc. Et il est utilisé comme une technique de mobilisation pour la collecte de déchets, pour différents services à la collectivité. Donc c'est en fait là une tradition dont, je vous renvoie si ça vous intéresse à l'ouvrage de Jeanne Mesilla chez Cartala, qui a maintenant une vingtaine d'années, cet ouvrage sur le multirao. On a aussi des phénomènes assez similaires qui ont été documentés en Amérique latine et notamment dans l'Amérique andine, avec des fortes traditions d'implication communautaire paysanne, en fait. Là, c'est en fait ce qu'il est intéressant de voir, c'est finalement d'où viennent ces traditions communautaires quand elles existent encore. Et c'est vrai qu'il y a souvent des filiations avec des mouvements, avec des traditions paysannes, d'entraide communautaire, qui ont perduré dans les sociétés les plus soumises à exposer aux risques, à des conditions rudes. C'est ce qui est très bien expliqué dans le film qu'on a passé au moins 5 fois ici, Villa El Salvador, j'ai oublié le nom du réalisateur, excellent documentaire, qui montre très bien comment les paysans venus des Andes à Villa El Salvador, dans la périphérie de Lima, immense quartier autoconstruit, ont eu recours durant la guerre civile, etc., à des cuisines communautaires qui ont permis à la population de ne pas mourir de faim, quasiment, puisque c'est une population qui était affamée par l'armée, car considérée comme résistante, comme proche de la guérilla, etc., ce qu'elle n'était pas au demeurant. Cette cuisine communautaire viendrait, ces habitudes de cuisine communautaire viendraient directement de cette tradition andine de mise en commun des choses. Quand on a peu, on met en commun, ça permet à tout le monde de survivre plutôt que de crever chacun dans son coin. Et pareil pour la construction, qui a été un petit peu à la façon des castors ici, dans les années 50, juste après la guerre, faite quasiment par tirage au sort, par effort communautaire, et dans un grand élan communautaire, pionnier. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ces mouvements communautaires d'inspiration paysanne, surtout souvent, sont liés aussi à des traditions politiques en Amérique latine. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, voilà, je connais très mal l'Amérique latine, mais tout ce qu'on peut en lire montre bien qu'il y a des filiations quand même entre mouvements paysans, droits des sans-terres, et aussi aujourd'hui les mouvements d'occupation, ce qu'on appelle en Brésil des occupations, donc les invasions de terrain, mais aussi les occupations d'immeubles, qui sont très nombreuses à São Paulo notamment, et qui sont extrêmement, pour certaines, extrêmement autogérées, enfin qui sont totalement autogérées, et qui se revendiquent aussi du multirao, puisqu'il y a des aménagements communautaires qui sont faits dans ces immeubles. On aménage un espace pour soi, mais aussi un espace pour la vie collective. Voilà.
Le film, c'est celui de Marina Program et de Jean-Michel
Rodrigo, oui, c'est ça.
Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert.
Alors, donc, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que, bien sûr, cette participation, disons, communautaire, nue, cette participation nue, ou par nécessité, a été... alors, elle est, la plupart du temps, par nécessité, mais elle est aussi auto-organisée, elle a été politisée, auto-organisée dans certains États, dans certaines régions, à certaines périodes de l'histoire. Elle a nourri et elle nourrit encore la littérature internationale sur la bonne gouvernance. Donc je ne sais pas si je vous apprends quelque chose en reprenant cette citation de 2003 qu'on pourrait tout à fait transférer aujourd'hui, citation de la CNUE, donc la Commission des Nations Unies pour les établissements humains, qui nous rappelle à quel point la participation, et notamment la participation communautaire, est quelque chose est une dimension qui peut être instrumentale, qui sert, qui est un instrument de bonne gestion des projets, de bonne implication des populations, et qu'elle est requise, du coup, elle serait requise dans les opérations dites de développement, dans les pays en développement, pour mieux favoriser la meilleure réussite des projets, en gros, etc., et à un moindre coût. Alors, cette participation communautaire, cette participation telle qu'elle est transcrite dans les instances internationales et qu'elle est reprise par obligation par les États, enfin je veux dire, quand je dis par obligation, c'est que si dans des États soumis à des programmes d'ajustement structurel permanent, donc à un système de dette qui les lie à un système bancaire international et donc à des États plutôt plus riches que... Et à des institutions internationales, la participation rentre de façon obligatoire dans les attendus des politiques publiques de tous les États, qu'ils soient démocratiques ou non démocratiques. Ça ne veut pas dire pour autant que cette participation, elle est mise en place, qu'elle est dotée d'effets, qu'elle est suivie d'effets, etc. Quoique ça et là, dans la plupart des pays, peut-être à l'exception de la Corée du Nord, on a des tentatives de mise en place de formes, enfin, souvent expérimentales, de mise en place de formes de participation, etc., accompagnées. Mais la véritable question, effectivement, c'est celle comme Dominique le disait, effectivement, en introduction, c'est celle du niveau de coercion exercé sur cette participation et de la capacité à respecter l'auto-organisation. Donc la question que je voudrais poser à l'issue de cette diapo, c'est celle vraiment de la question de l'auto-organisation. Parce que ce qu'on voit, c'est que dans tous les gouvernements, et aujourd'hui de plus en plus dans les gouvernements locaux qui ont le vent en poupe au niveau international, on reprend cette doxa de la participation qui est génératrice de cash, quoi, qui permet d'avoir des prêts, d'avoir des dons, des bailleurs internationaux, et qui permet aussi de faire des alliances avec certains mouvements sociaux, certains groupements d'habitants, etc. Ceci dit, la capacité à prendre en compte réellement l'auto-organisation qui existe déjà, qui préexiste, préexistante, est extrêmement ténue. Et c'est ça qui fait peut-être la différence, je dirais, avec la France, enfin bon, pour ce que je connais mieux, je ne dirais pas, évidemment, en France, on a un énorme tissu associatif, mais par exemple, dans les quartiers populaires, où on travaille, on travaille aussi avec d'autres collègues depuis longtemps, on voit bien que cette capacité d'organisation collective et communautaire, voire politique, c'est considérablement amenuisée. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, dans certains grands ensembles, d'avoir, plusieurs milliers d'habitants, 2-3 associations de quartier qui ne regroupent pas plus de 5 personnes chacune. Voilà. À l'échelle de la participation collective communautaire dans les pays du Sud, c'est absolument rien du tout. C'est-à-dire que dans le moindre quartier précaire auto-édifiée, par exemple en Égypte, une réunion publique ou la présence de professionnels pour faire par exemple de la cartographie ou pour faire des ateliers avec des habitants va susciter un intérêt considérable. C'est-à-dire qu'on va avoir des centaines de personnes qui peuvent venir. C'est pareil en Inde, c'est pareil en Indonésie, etc. Donc la question de la mobilisation aussi, de la capacité à se mobiliser collectivement pour faire avancer le quartier, elle n'est pas du tout la même parce qu'on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis d'un État pourvoyeur. Parce que, étant ici dans une société protégée et encastrée, on a perdu finalement cette espèce de cette participation par nécessité ou cette participation, voilà, ces habitus, disons, de participation. Alors, la capacité donc des États et des collectivités locales à incorporer, à prendre en considération, disons, à savoir agir avec les mouvements communautaires déjà existants et avec les mouvements organisés d'habitants, voire avec la participation communautaire non organisée, elle est extrêmement faible. Pourquoi ? Il y a un certain nombre d'obstacles. Bon, les principaux obstacles sont évidemment idéologiques, mais si on passe la dimension idéologique, on voit qu'il y a des obstacles de nature cognitive, c'est-à-dire l'incapacité des pouvoirs locaux à reconnaître les compétences des citadins mis en œuvre dans la pratique de la participation et leur focalisation exclusive sur ce qu'on va appeler des leaders locaux ou des leaders communautaires. Ce qu'on va faire dans la plupart des projets dans les pays du Sud en participation, c'est que les consultants ou les techniciens qui vont s'occuper de faire ces projets de réhabilitation participative vont être en charge de repérer des leaders naturels, comme ça qu'on les appelle en anglais, ou des leaders locaux, pour travailler avec eux. Et c'est avec eux qu'on va bâtir éventuellement, dans le meilleur des cas, des travaux d'intérêt général, enfin, des travaux communautaires, éventuellement. On voit aussi, dans le cas du Maroc, on avait fait une petite incursion avec Anne-Orazio pour faire une évaluation de politique publique, que l'énorme programme marocain Ville sans bidonville avait débouché sur son volet en politique de la ville marocain, qui était l'implication des habitants et la participation des habitants, avec une question qui était celle de faire des évaluations participatives, des diagnostics participatifs, excusez-moi, de quartiers, de 300 quartiers. Là, autre problème, double problème, absence de professionnels formés pour faire ces fameux diagnostics participatifs, absence de professionnels formés autour de la question de la participation, ça c'était le premier aspect. Et puis deuxième aspect, finalement, on a mis longtemps à comprendre, mais refus implicite voire tacite des autorités locales d'aborder un certain nombre, que ces diagnostics abordent un certain nombre de sujets. Il y avait des sujets tabous. Donc, évidemment, la relation possible avec ces leaders communautaires qui existent, par contre, dans les bidonvilles marocains qui sont très organisés autour d'autorités traditionnelles ou néo-traditionnelles, était complètement contrecarrée par l'incapacité par les injonctions qu'avaient reçues les équipes de ne surtout pas aborder les sujets qui pouvaient amener des refontes en profondeur du système de production de l'habitat, notamment, et du système économique. Surtout pas parler d'habitat, donc vous imaginez, faire du diagnostic participatif sans parler d'habitat, c'est quand même compliqué dans un bidonville. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, vous voyez, on est ce programme, c'était l'évaluation qu'on a faite, c'était 2006, hein, un certain temps. Mais vous voyez, donc il y a un certain nombre d'obstacles qui sont, qui sont très nombreux et qui sont. Voilà. Alors, là où il faut s'interroger, c'est que quelques pays, et parfois des pays pas spécialement extrêmement démocratiques, ont mis en place, ont accompagnent des processus de participation communautaire de façon parfois massive. Et donc là, on est dans la volonté de s'appuyer sur la participation des habitants, des usagers, des habitants, dans une combinaison à la fois de l'efficacité, d'un souci d'efficacité et d'équité, d'équité peut-être moins, dans la production de services et la production d'habitat à destination des populations pauvres. Et ça se produit souvent dans des, pour ce que j'ai pu reconnaître, dans des pays qui ont déjà été organisés sur la base, je ne sais pas si on peut passer la précédente diapo, non, tu vas en... non, c'est tout ça, top. Tu reviens en arrière. voilà, c'est très bien organisé, comme tu vois. Tu reviens en arrière, tu reviens en arrière un petit peu. Voilà. Qui est, déjà, la précédente, excuse-moi. Voilà. Qui est dans des pays dans lesquels le tissu social dans les quartiers précaires est déjà organisé autour de composantes très fortement structurées par l'épargne communautaire, par l'épargne solidaire. Alors, ça, c'est une dimension qui est importante parce qu'elle est souvent, finalement, d'une certaine façon, elle se retrouve, il y a une espèce de pont conceptuel, enfin, de pont, peut-être pas conceptuel, pragmatique, qui a été fait autour de ces questions par l'ONG Urbamonde, qui est en Suisse, qui travaille sur les coopératives de logement, et qui a bien vu qu'entre les coopératives de logement en Europe et les mouvements d'habitants dans les quartiers précaires, etc., ben, il y avait quelque chose qui était commun, c'était l'épargne solidaire, qui était finalement fondatrice de liens très forts entre les habitants. Alors, moi, il se trouve que les quartiers dans lesquels j'ai travaillé, bon, il y a des, ce qu'on appelle des tontines, enfin, en Égypte, il y a des gamayettes, qui sont des tontines qui sont autour de groupes d'une dizaine de personnes, qui servent quand même, qui sont toujours organisées par les femmes et qui servent à acheter soit des biens matériels, soit à mettre au pot commun pour des travaux de construction. Donc, ça crée du. C'est vrai que. Ça crée quand même un lien social très très fort, mais c'est encore plus fort dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et je précise que, d'ailleurs, ça n'a jamais été dit, mais ça existe aussi dans les grands ensembles français, puisqu'il y a des tontines aussi qui existent, notamment entre les organisées par les femmes africaines, et qui sont un levier tout à fait invisible de financement et de capacité d'action. Donc c'est très fort, par exemple, au Sénégal, dans le quartier de... Enfin, dans les quartiers autour de Pikine, sur lesquels notamment Romain Leclerc fait sa thèse. Là, ce sont des photos que j'ai prises il y a 2 ans, autour d'un groupe de femmes assises dans la rue, qui sont en train de... La femme la plus âgée qui a un livre de comptes. Et dans ce livre de comptes, finalement, elle recense tout ce que chacune... C'est le sous-quartier le plus pauvre de ce quartier de Tatiaro-Ekao, à Pikine. Et elle recense finalement ce que les différentes femmes du quartier ont pu mettre au pot pour soit des travaux individuels, soit des travaux collectifs et communautaires. À partir de cet exemple, donc sur lesquels travaille Romain, on voit qu'il y a des organismes, des ONG qui ont pu construire et consolider des fédérations d'habitants assez larges, assez amples, qui ont été jusqu'à se mobiliser sur d'autres sujets qui sont la cartographie participative et notamment une cartographie et une planification participative contre les risques. Non, c'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi les gens sont là. Voilà, tu peux laisser celle-là. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans ces mêmes quartiers dans lesquels nous avons de l'épargne solidaire, etc., on a également des ONG qui sont ancrées autour de ces mouvements de femmes, ces mouvements de tontines, ces mouvements de femmes, dites de femmes citoyennes, et qui font de la réhabilitation participative. Alors là, on a de jeunes ingénieurs, d'ailleurs, ce sont des femmes qui sont embauchées pour faire le tour des habitations donc de ce quartier non régularisé, mais quand même reconnu, et pour recenser l'ensemble des risques des habitations face aux inondations récurrentes, en fait, que connaît le pays depuis le début du dérèglement climatique des 10 dernières années, puisqu'il y a de très très fortes inondations maintenant dans toutes les villes ouest-africaines, et en particulier dans les quartiers précaires, chaque année, à peu près, avec des conséquences terribles en termes de malaria, de recrudescence du moustique, etc., de maladies. Et donc, à la suite de ça, de ce diagnostic, qui est co-élaboré donc, avec les habitants et avec l'ONG, il y a un système de prêts qui se met en place, prêts qui sont gérés par les femmes et qui sont des prêts de longue durée et qui permettent de faire les travaux nécessaires pour la réhabilitation du logement. Donc c'est en quelque sorte l'ANA, mais en lien, le diagnostic se fait en lien direct avec les usagers et se fait souvent des modalités de remboursement qui sont différées dans le temps, qui sont adaptées. Et donc... Aujourd'hui, cette fédération sénégalaise des habitants, et en particulier cette antenne locale de Dakar, est reliée à un réseau international qui s'appelle Slum Dwellers International, qui a généralisé au niveau africain et en Inde, dans un très très grand nombre de villes, la cartographie participative comme outil de codécision avec les habitants pour permettre d'établir finalement qui est sur place, c'est-à-dire pour déjà montrer que la production de données sur des quartiers totalement non recensés, non cartographiés, est le premier pas vers la reconnaissance. Et donc ce mouvement qu'on trouve maintenant en Afrique de l'Ouest, donc la Fédération sénégalaise est affiliée à SDI, on la retrouve aussi en Asie, avec d'autres réseaux internationaux d'habitants, notamment la Coalition asiatique pour les droits au logement, ECHA, qui est présente dans 19 pays asiatiques et dont le fondement même est de reposer l'action de planification communautaire dans les slums, dans les quartiers précaires, sur l'épargne collective préexistante. À partir de cette épargne collective, cette épargne solidaire, elle est désignée comme étant une source d'abord de confiance mutuelle énorme entre les habitants, en particulier les femmes. Elle est également une source d'empowerment et elle va être un levier qui permet d'agir pour cofinancer, alors après on peut discuter du politiquement correct ou pas du cofinancement, pour cofinancer une partie des opérations de réhabilitation. Et aujourd'hui, on est dans un stade où on a eu une des responsables de l'ICHA qui est venue il n'y a pas longtemps à Paris qui nous a expliqué que le stade actuel, c'est qu'ils sont en train d'établir des fonds de développement de villes à l'échelle de centaines de villes en Asie qui regroupent une partie de cette épargne communautaire pour en faire des outils d'intervention et de planification au service des habitants. C'est-à-dire que, voilà. Donc, je vais conclure juste là-dessus. Sur ces aspects plus pragmatiques de ce que peut être aujourd'hui la mobilisation de cette participation communautaire. C'est-à-dire qu'on voit que d'un côté, on a des formes de mobilisation instrumentales par les États ou par les collectivités locales sous injonction très forte des institutions internationales, etc., etc., et des bailleurs de fonds internationaux qui ne débouchent pas sur des réussites absolument flagrantes. Qui reste de la participation très instrumentalisée et qui par conséquent dont les effets bénéfiques sur les populations ne sont pas nécessairement évalués d'ailleurs. Et puis on a également d'autres formes qui sont en train de se multiplier mais qui qui s'ancrent très fortement sur des dispositions collectives à agir, en fait c'est comme ça qu'on pourrait peut-être les appeler, dans ces quartiers liées à cette participation par nécessité, et puis de nécessité, les habitants font vertu. C'est-à-dire qu'ils en arrivent, quand ils sont associés avec ces organismes et ces réseaux transnationaux comme SDI, ECHA, etc., avec l'aide de professionnels engagés, avec l'aide de à élaborer des plateformes de co-décision sur ce que sont leur environnement, ce qu'est leur environnement urbain, à commencer par la cartographie et le recensement ménage par ménage de l'existant. Et puis ensuite la mobilisation. Je dirais qu'il y a un entre-deux qu'on trouve dans certains pays à gouvernement, alors parfois socialiste, mais pas nécessairement d'inspiration populiste. On a eu ça dans le Venezuela de Chavez, je ne sais pas si ça existe encore, puis la réduction drastique des fonds de l'État. Mais on a eu de la planification. Dans les barrios, se sont déroulées la planification communautaire et de la cartographie parcelle à la parcelle de l'ensemble des détails relevant de l'habitation, y compris dans des morphologies urbaines très compliquées, avec des déclivités de fous, etc., et de la cartographie communautaire de risque. Ça s'est fait avec des coopératives de jeunes professionnels, etc., dont Delphine Darigan, qui était étudiante dans cette même école, qui est toujours présente là-bas avec une série d'étudiants qui ont suivi et qui ont fait d'énormes, qui ont vraiment très bien travaillé. Donc là aussi, il y a un certain nombre de leçons à tirer dans cet entre-deux. Mais merci et désolé de ce caractère un peu.